On a un petit problème de circulation qui s'ajoute à ce qu'on avait déjà sur le réseau routier.
Bien, vous rappelez l'accident sur Henri IV Sud pour commencer entre chemin Sainte-Foy et chemin des Quatre-Bourgeois, la voie de gauche qui est bloquée pour un accident. On nous disait par texto que ça impliquait trois véhicules. Là. C'est encore super congestionné si je regarde la carte. Et Robert Bourassa Sud entre chemin des Quatre-Bourgeois et boulevard Hochelaga, la voie de droite qui est bloquée pour un accident. Les policiers qui sont sur place, mais ça vient tout juste de se passer. Fait que c'est quand même pas prêt de se dégager. Capitale Est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne. Et il y a un bon ralentissement sur Henri IV Nord aussi entre Sainte-Geneviève et l'avenue Industrielle. Dans le coin de Val-Bélair, quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021.
Merci Audrey. Quand on a des questions qui concernent la santé, puis on voit des affaires dans les médias, il y a des gens qui vont utiliser Google, puis qui vont se ramasser sur des sites un peu louches. Nous autres, on est chanceux, on a une source d'information assez directe. Avec nous en studio, la docteure Élise Berger-Pelletier, urgentologue, est là. Salut Élise.
Bonjour les amis.
Comment tu vas?
Ça va bien, vous?
T'as-tu la rougeole?
Non, je suis vaccinée.
Hey, on a plein de questions pour toi parce que un peu plus tôt cette semaine, il y a eu un point de presse de la santé publique pour faire la mise à jour sur ce qu'on considère comme étant une éclosion de rougeole, alors qu'on nous parlait seulement d'une dizaine de cas dans la région de Montréal, tout en nous préparant à « il va avoir plus de cas, qu'est-ce qui s'en vient? » pourquoi on parle de la rougeole alors qu'on pensait tout que c'était disparu? C'est quoi? Puis on s'en va où avec ça?
Bon, alors la rougeole, c'est un virus. C'est un cousin germain des oreillons. C'est un virus qui existe depuis probablement des millénaires. Et en fait, il y a un vaccin qui est disponible gratuit dans le calendrier vaccinal de tout petit poupon depuis des années. Le problème qu'on a, c'est que malheureusement, pour de mauvaises raisons, les parents, parce que l'enfant ne décide pas, font moins vacciner leur enfant. Fait que le taux global de vaccination partout en Occident, le Québec n'est pas différent d'ailleurs, a légèrement diminué. Ce qui fait qu'à part la variole, il n'y a aucun virus ou méchant là, pour lequel on se fait vacciner qui a disparu de la surface de la Terre.
Il reste toujours un peu là, sauf que notre taux de vaccination est tellement élevé qu'on considère la maladie quasiment comme éradiquée.
Exactement. Puis, tu sais, depuis que je suis avec vous puis je fais des chroniques, on a déjà eu de la coqueluche il y a quelques années, on a eu des oreillons il y a une autre année, ce qui fait que c'est ce genre de virus-là qu'on ne voyait plus, mais malheureusement, on les revoit un peu plus. Puis la rougeole, c'est quand même un virus qui a des complications. C'est pas pour rien pourquoi on le faisait vacciner nos enfants et qu'on doit faire vacciner nos enfants. Entre autres, deux choses principales. Un, c'est que c'est un des virus qui a des effets chez le fœtus. Fait que si une femme enceinte l'attrape, c'est pas super bon pour son bébé dans son bedon. Et autre chose qu'on voyait chez les enfants qui avaient la rougeole, c'est l'encéphalite, donc une inflammation du cerveau. Et ça non plus, je vous l'explique et je vais déjà vous dire, ah mon Dieu, ce n'est pas une bonne idée d'avoir la rougeole. Évidemment, c'est relativement rare, ces complications-là. Mais ça reste que c'est pour ça qu'on vaccinait.
Pendant plusieurs années, le taux de vaccination à travers le pays était de 95%, puis c'est avec ce taux-là qu'on considérait qu'on est en mesure de contrôler la propagation du virus si parfois il est ramené au pays ou s'il se promène un peu. Là, ce qu'on nous disait cette semaine, c'est que dans la région de Montréal et certains secteurs où le taux de vaccination est plus bas, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on fait moins vacciner nos enfants par rapport à ça? C'est-tu parce qu'on était plus conscient de la présence de la rougeole? Est-ce qu'il y a une autre raison derrière tout ça?
Malheureusement, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que oui, le fait qu'on n'a jamais vu ces maladies-là et qu'on ne connaît pas les risques associés, malheureusement, ça fait que les gens se disent « Ah, c'est pas grave ». Deux, tout ce qui est des chambres d'écho sur le vaccin de la COVID a une répercussion indirecte sur tous les vaccins en général. Puis ça, c'est sûr que ça a dû avoir un impact. Est-ce qu'il y a des cultures qui sont anti-vaccins plus que d'autres au niveau de l'immigration? Je le sais pas trop.
La culture Facebook?
La culture Facebook, probablement. L'autre chose, puis c'est ce qu'on se disait avant d'entrer en onde, puis j'ai vérifié, c'est que malheureusement, le vaccin, le RRO, le vaccin rougeole, rubéole, oreillon, a eu mauvaise presse il y a plusieurs années. C'est une des plus grandes fraudes scientifiques de l'histoire, en fait. C'est un scientifique qui avait publié un article scientifique disant qu'il y avait un lien direct entre l'autisme et ce vaccin-là.
Et ça, on avait entendu beaucoup parler de ça, le lien autisme-vaccin, puis il y avait des célébrités qui étaient sorties en disant « Moi, je ne fais pas vacciner mes enfants, c'est pas vrai », puis ça avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, puis tu me dis que c'est une fraude.
C'est une fraude, en fait.
Ça a eu moins d'espace, ce bout-là, le bout de la fraude.
Mais c'est souvent ça qui est très désolant de tout ça, c'est que ça a été publié dans une grande revue scientifique renommée que je lis fréquemment des articles. Mais il y avait fraudé les chiffres, puis c'est quelqu'un par la suite qui a dit « Voyons, ça marche pas, les chiffres, ça fonctionne pas », qui avait finalement eu accès à la base de données et finalement, l'auteur avait dû se rétracter. La revue s'est rétractée, il y a eu des poursuites, ça a été immense dans le monde de la science. Mais, là.
Le mal était fait.
Le mal était fait. Le mal était vraiment fait.
Ce qui était devenu, en fait, c'était même plus une nouvelle, c'était une rumeur carrément. C'était même plus une rumeur. C'est quelque chose de faux. La fausseté s'était propagée, puis ça a donné ce qu'on vit actuellement.
C'est quoi les symptômes? Parce que moi, j'ai toujours... C'est niaiseux, mais quand tu connais pas ça, là, moi, je pensais que rougeole puis varicelle, on n'était pas loin. Là. C'est quoi les symptômes, puis comment tu t'en... Peux-tu, puis comment tu t'en débarrasses de la rougeole?
En fait, t'as pas tout à fait tort. Hein. Ça ressemble un peu à la varicelle. Donc, c'est chez les très petits-enfants. Donc, souvent, chez les adultes, c'est plus rare de l'attraper chez l'adulte. Ça se dit, ça se peut. Mais donc, chez les enfants, le classique, c'est grosse fièvre avec, là, ça, très sécrétoire. Donc, les yeux rouges, la conjonctivite, le nez qui coule, l'atout. Et après 3 jours, habituellement, on a un rash, donc des rougeurs partout sur le corps. Puis, il va apparaître des petites taches à l'intérieur de la bouche aussi. Puis, ça va durer 7 à 10 jours. Le problème, c'est comme la plupart de tous les virus, vous allez être contagieux 1 à 5 jours avant le début des symptômes. Fait que vous allez commencer à le transmettre. Puis ça se transmet par, comme la COVID, là, par les petites sécrétions. Là, ici, je parle présentement, puis bof, j'ai ma petite salive qui se promène partout. Vous aussi, d'ailleurs.
c'est un beau mélange.
C'est comme ça qu'on transmet la plupart des virus et c'est comme ça que la rougeole se transmet. La grande majorité, ça va finir par rentrer dans l'ordre, puis c'est pas très agréable. Mais comme je disais, pour une minorité, il y a des complications, puis c'est là où on a inventé le vaccin, fort heureusement.
Tu parlais tantôt justement de la fraude par rapport à l'étude sur le vaccin de la rougeole, la perte de confiance par rapport au vaccin sur la COVID. Comment on fait pour trouver ce lien de confiance-là, vaccin-population?
Ça, là, c'est tellement difficile parce que l'affaire, c'est que la plupart des scientifiques vont arriver avec des arguments scientifiques, un peu comme je viens de faire, vous expliquer le pourquoi du comment. Le problème, c'est quand ça devient des croyances, c'est dogmatique. On va en parler dans 2 minutes avec notre sujet sur la dépendance, c'est que c'est pas les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent, en fait. Quand on est dogmatique, on a peur, on a des croyances que si on donne le vaccin, on va tuer notre enfant. Bien, c'est sûr que moi, quand même je te bombarde de statistiques, tu ne vas pas m'écouter parce que tes amygdales, la partie du cerveau qui sert à sauver du lion là, depuis que l'humain est humain, est activée, puis tu n'écoutes plus avec ton lobe frontal, qui est la partie qui gère la science, si tu veux, et les faits. Fait qu'il faut aller déconstruire la partie des amygdales en écoutant la personne, en étant capable de dire « Écoute, je comprends que tu as peur, je comprends que c'est difficile, puis je comprends que tu veux le meilleur pour tes enfants. » Puis après ça, au lieu d'être dans le jugement, puis d'être dans le « voyons que tu penses que les vaccins, ça sert à rien », puis c'est malheureusement, c'est long. Puis puis c'est aussi pour les médecins, ça nous touche aussi parce qu'on dit « voyons donc, c'est la science ».
C'est une évidence. Là.
Fait qu'il faut vraiment comme déconstruire petit peu par petit peu ce genre de choses-là. Puis après ça, il y a des gens qui vont finir par faire « hey, oui, c'est vrai ». Puis tu sais, des fois, il y avait d'autres arguments que j'utilisais. T'sais, avez-vous déjà pensé que quand votre enfant va être adulte, qu'il va vouloir voyager, puis pas vacciner, le danger que ça peut avoir, parce qu'il y a des pays où il y a des maladies qui sont endémiques, ici, existent à peu près plus. T'sais, il y a ce bout-là aussi, des fois, qu'on peut aller avec des arguments un peu, utilitaires. Puis là, on fait « Ah, bien, mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. » Mais à la base, les gens qui ont peur des vaccins, c'est qu'ils ont peur des vaccins. Là, c'est la peur, puis ça, il n'y a rien à faire après avec aucun argument scientifique. C'est la même chose avec les dépendances. Si tu commences à dire « arrête de fumer, c'est pas bon pour toi », guess what, tous les fumeurs savent que la cigarette, c'est pas bon pour eux.
Ça fait des décennies qu'on le dit. Exactement. Ils font en toute connaissance de cause.
Tout à fait. Fait que c'est pas facile, mais ça prend du temps. Okay.
L'autre sujet d'actualité, puis j'ai de mes collègues qui ont été victimes de ça. Quand on s'est parlé au mois de novembre, décembre, puis ça, on l'a comme vécu d'une claque. Là. Il y a eu beaucoup de virus respiratoires qui sont arrivés, des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital, mais les gens en bonne santé pognaient quelque chose, passaient au travers, mais il y a une toux qui persiste pendant des semaines, voire des mois.
Ah, puis des petits motons de morve aussi, là.
Audrey, t'es correct, cette semaine, dans tes motons de morve, il y a une amélioration
notable. J'ai encore des petites sécrétions, mais je suis à ma 3e semaine, là, où je m'en débarrasse pas, là.
Qu'est-ce qui se passe? Mais on peut-tu se débarrasser de ça? Pourquoi c'est persistant de même?
J'ai toussé 12 semaines, fait que je suis tout à fait en connaissance de cause et il n'y a pas de traitement. Donc, vous pouvez arrêter d'aller harceler votre pharmacien ou votre médecin. Puis les gens sont très insatisfaits. Genre, trouvez quelque chose pour que je dorme.
C'est détestable.
C'est vrai que c'est détestable. Mais c'est ça. C'est que, entre autres, le virus respiratoire, le syncytial, est particulièrement irritatif et inflammatoire. Mm. Ce qui fait qu'une fois que votre système immunitaire, il a cassé le virus, malheureusement, il reste de l'inflammation dans vos bronches qui va faire qu'on va tousser. Ça peut durer, comme je disais, 8 à 12 semaines. Il y a des gens qui peuvent avoir un petit fond d'asthme en eux. Fait que des fois, il faut... Ben, tu sais, je dis pas faut pas consulter, mais il faut quand même ausculter. Puis là, fait, ah, tiens, on entend les symptômes pathognomoniques de l'asthme. Fait que là, on va traiter ça, ça va soulager. Rarement, les antibiotiques vont être efficaces. Donc, souvent, les gens se disent, ah, si j'ai une bronchite, j'ai besoin d'antibiotiques. Non, c'est inflammatoire. L'article que vous m'avez transmis là, qui est dans le Journal de Montréal, je trouvais ça intéressant la façon que les médecins l'expliquaient. C'est que de plus en plus, parce qu'on a des vies actives, on est occupé, on n'a pas le temps d'être malade, bien souvent les gens viennent rapidement. Après 3, 5 jours ou 7 jours, c'est comme j'ai toujours une sinusite, donnez-moi-les les antibiotiques. Et non. De plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est le temps que votre système se débarrasse de tout ça, c'est long. Puis souvent, c'est plus après 7 à 14 jours, même on parle du 14 jours, avant de dire qu'il faudrait consulter un professionnel de la santé. Ça reste désagréable, là. Vous me regardez avec une face de « ouais, mais c'est pas le fun de tousser ». Je le sais. J'étais tannée de tousser, je vous jure.
Il n'y a rien pour soulager aider.
C'est toujours la même histoire, mais tu sais, c'est toujours la même histoire. Donc, c'est de bien dormir, c'est de s'hydrater, c'est de pas trop parler. T'sais, vous avez un travail où vous utilisez beaucoup vos cordes vocales, ça augmente l'irritation. Comme moi, quand je travaille à l'urgence, un corps de travail, c'est sûr qu'à la fin de mon corps, je tousse beaucoup plus qu'au début. Mais après ça, non, malheureusement, il n'y a pas de pilule miracle, puis il n'y a pas de baguette magique. Puis j'ai toujours dit, et je dis toujours de façon humoristique, si ça existait un traitement miracle pour la toux, ça ferait longtemps que la personne l'aurait...
Elle serait riche.
Oui, elle serait riche en tabarnouche.
Fait qu'il faut prendre notre toux en patience.
Oui, c'est plat. Mais c'est la faute des virus encore.
Ce qui nous amène maintenant à l'invitation d'origine. En début de semaine, Audrey a pris une grande décision. Elle a décidé de se sevrer de sucre. Audrey, c'est notre bibitte à sucre. Elle est capable de skipper un dîner si, par exemple, des cocos Cadbury se sont placés sur son chemin. La priorité va changer. Puis quand on s'est mis à parler de ça en onde, on a reçu, Élise, une quantité de témoignages de gens qui l'ont fait en disant, Audrey, tu vas voir, ça va être long, tu vas avoir des symptômes de sevrage, ça ira pas bien. Puis on s'est dit, tiens, on va parler de dépendance, puisque les dépendances sont vastes. Puis tiens, on va souvent parler des dépendances à la drogue, des dépendances à l'alcool, mais il y a des gens qui ont des dépendances au sucre, il y a des gens qui ont des dépendances aux médicaments sans ordonnance pour dormir, entre autres.
Mélatonine et compagnie.
Ben, mélatonine, c'est produit naturel, mais il y en a qui vont se servir des gravoles, il y en a qui vont se servir de certains relaxants musculaires qui sont sur le marché, puis vient des sevrages avec ça. Fait qu'on s'est dit, on va parler des mécanismes de la dépendance.
Oui! Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai toujours... En fait, je suis rentrée en médecine pensant que j'allais être neurologue. J'adore le cerveau. En secondaire 1, j'avais fait une présentation, d'ailleurs, qui m'avait valu un prix avec mon amie Jessie sur où est l'inconscient dans le cerveau.
Félicitations.
Merci beaucoup. Donc, c'est super intéressant. C'est très vaste comme sujet. Puis, en fait, la dépendance, c'est qu'il faut la comprendre de façon physiologique. C'est-à-dire qu'à la base, notre cerveau n'a pas été créé pour être dépendant. On est des machines biologiques, comme un alligator ou comme un lion dans la savane, on est des homo sapiens. Puis pourquoi ça existe, c'est que c'est le principe du plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez dire qu'on a souvent ces discussions-là, mais c'est parce que c'est très concret. Avoir une relation sexuelle, ça donne du plaisir, puis ça donne des bébés. Et à la base, tous les animaux, leur objectif, c'est de se reproduire. Manger un fruit, donner du sucre, donner une certaine forme de plaisir, t'es comme « Ah, tiens, ça, c'est bon pour moi. » Donc, l'homo sapiens, dans sa savane natale, mangeait des fruits.
Donc, le plaisir puis la nécessité du besoin venaient ensemble.
Exactement. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on a été construit. Malheureusement, après, on a découvert le tabac, on a créé l'alcool, on a créé toutes ces belles choses qui amenaient aussi beaucoup de plaisir. Mais l'affaire, c'est que le plaisir dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle le cercle de la récompense. C'est en fait la sécrétion de dopamine. Donc, la faute de la dépendance, toute forme de dépendance, elle est en partie psychologique, c'est-à-dire qu'on s'ennuie ou etc. Mais ce qui crée la dépendance, le penser, là, mettons, à l'héroïnomane qui shoot de l'héroïne, qui est à peu près une dépendance très visuelle, là, bien lui, là, il s'injecte directement de la dopamine dans son cerveau. Et ça, c'est un orgasme dans le cerveau, littéralement. Ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est très, 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 très intense. Mais malheureusement, après, il va avoir automatiquement l'espèce de sevrage dans le cerveau où il fait « Hey, c'était donc belle fun, ce blitz-là de dopamine. J'en veux plus. » Et dans le contexte du sucre, dans le contexte du tabac, dans le contexte de toutes les dépendances, on peut avoir des dépendances à plein de choses, bien c'est ce cercle-là, malheureusement, qui devient un cercle vicieux entre vouloir avoir de la dopamine et l'espèce de « down » après dans le cerveau qui fait « Hey, mon Dieu, j'en veux plus ».
L'après-roche.
Exactement.
J'entends souvent, je vais le personnaliser, que le sucre est pire que la dépendance à la cocaïne ou que la dépendance à l'alcool. Est-ce que c'est vrai ou c'est vraiment juste parce qu'étant donné que c'est super accessible, parce que c'est l'alimentation,
c'est hyper commun,
puis
c'est légal,
qu'on associe ça?
Je pense que c'est effectivement, Véro a probablement raison, c'est que c'est pas pire, c'est juste que c'est banalisé, entre guillemets. Mm-hmm. J'ai une de mes amies qui est docteur Julie Saint-Pierre, qui est pédiatre, qui parle d'obésité chez l'enfant depuis des années. Puis c'est parce que plus l'enfant, en plus, crée ce cercle-là de dépendance de sucre, c'est que malheureusement, un peu comme n'importe quelle drogue, c'est que vous allez en vouloir toujours plus parce que votre cerveau va s'acclimater, si vous voulez. Fait que là, ce sera pas juste un œuf Cadbury, ça va être la boîte d'œuf Cadbury.
Oui, mais ils sont rendus
ça
petits.
Sera...
non, c'est ça.
Ça sera plus un beng, ça va être 6 beignes. Et là, malheureusement, tous les effets que ça a sur la santé, bien, c'est comme si vous preniez de la cocaïne à long terme, qui a des effets sur vos artères, qui a des effets sur plein de choses. Fait que c'est pas pire. C'est que il faut le réfléchir en étant effectivement une dépendance.
Puis est-ce qu'il y a vraiment un... T'sais, on va prendre l'exemple du sucre. On sait que la drogue, il y a un sevrage qui vient avec. On a vu des images, que ce soit dans des documentaires ou encore dans des films de fiction qui l'illustraient très, très bien. T'sais, on voit physiquement ce que ça peut être. L'alcool, c'est la même chose. Les gens qui rentrent dans les fameuses cures de 28 jours, on sait que les premières journées sont pénibles. Puis des fois, ils ont besoin d'avoir certains soins qui vont venir avec ça. Vous en recevez aussi du côté de l'urgence, des gens qui sont en sevrage, qui ont essayé de se sevrer eux-mêmes. Mais quand tu parles de sucre, on l'a dit, c'est tellement banal. Est-ce qu'il y a vraiment des réactions physiques qui viennent avec ça ou c'est simplement de se déshabituer?
En fait, il faut savoir que l'alcool, la nicotine, l'héroïne, la cocaïne, c'est la vraie drogue, là, entre guillemets, c'est que ça a un effet, oui, sur le cercle de la récompense de la dopamine, mais ça a beaucoup d'effets sur les autres parties de votre cerveau ou d'autres effets sur votre corps qui fait que ça crée un sevrage qui peut être mortel. L'alcool, un gros alcoolique est à risque en faisant son sevrage de faire entre autres des convulsions ou faire ce qu'on appelle un délirium tremens, puis ça, c'est 40 % de mortalité. Donc, c'est l'effet de l'alcool, là, c'est la partie chimique là, qui fait que quand on l'enlève tout d'un coup dans le corps humain, c'est dangereux.
D'où l'accompagnement professionnel.
Exactement. Pour ce qui est du sucre, c'est pas le cas. C'est juste d'avoir à casser ce fameux cercle de la récompense-là. Puis en préparant la chronique, c'est drôle, moi, j'aime toujours lire les premières histoires, tu sais, de où ça vient, les études scientifiques. Puis là, entre autres, je lisais, c'était des chercheurs au début du siècle qui avaient, entre autres, à chaque fois qu'il y avait une lumière rouge, il y avait une goutte de jus pour les singes. Puis là, les singes étaient comme « Oh, wow, c'est bon! » Puis là, ils voyaient dans les marqueurs, parce qu'il y avait des trucs dans le cerveau, puis ils mesuraient dans le cerveau des singes l'effet que ça avait. Puis là, plus ça allait, plus le singe anticipait la goutte de jus d'orange. Mais une fois qu'il y a eu la lumière rouge, puis il n'y avait plus de jus d'orange, puis il était comme le singe, il regardait genre « Qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est là où il voyait vraiment l'effet, où il devenait irritant, puis tout ça. Fait que oui, il va avoir des petits symptômes de sevrage pour quelqu'un qui a vraiment ce besoin-là dopaminergique associé au sucre. Mais comme n'importe quoi, à un moment donné, ça arrête. Là, on est des bonnes machines, les humains. On est capable, malgré tout, après quelques temps, de dire « c'est beau, genre je suis correct ».
Parce que là, en début de semaine, là, les auditeurs nous partageaient des affaires, puis c'était comme sueur froide, tu sais, des mal de tête, puis là, comme si c'était vraiment quelque chose de physique qui venait avec le fait d'arrêter. Une affaire qui est tellement banale, je trouve. Tu sais, le sucre, aujourd'hui, c'est plate à dire, mais il y a tellement d'aliments transformés que tu en consommes un peu malgré toi, même quand tu fais attention. Mm-hmm. Il y en a partout, là.
Oui, puis tu sais, je veux dire, tout sucre n'est pas égal. Tu sais, je veux dire, le sucre d'une pomme versus le sucre d'un beng, tu sais, en théorie, on pourrait dire, ah, c'est la même forme de sucre. C'est que dans le beng, il y a aussi le volet gras. Puis ça, notre cerveau était habitué à vouloir l'emmagasiner parce qu'il n'y en avait pas avant dans la nature, entre autres de la graisse. Fait que ça, notre cerveau fait comme « Ouh, dopamine, yes sir, on a trouvé quelque chose qui est bon ». Fait que oui, il va avoir des petits symptômes physiques, mais c'est juste sur le fait que, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a beaucoup de neurotransmetteurs en lien dans le cerveau qui vont faire que ça se pourrait que des gens qui soient plus sensibles, entre autres, vont vivre des moins bonnes expériences.
De plus en plus, il y a plein de produits pour remplacer le sucre, les stevia de ce monde et compagnie. Puis c'est dur de se retrouver dans les études. Il y a une étude qui va dire que hey, c'est mieux ça que de prendre du sucre naturel. Il y en a d'autres qui disent hey, on ne connaît pas les effets à moyen puis à long terme. Est-ce qu'on est fixé là-dessus ou c'est encore trop récent dans notre histoire de nutrition puis de consommation pour avoir un vrai portrait de la situation?
Mon amie, donc, Dr. Julie Saint-Pierre, j'ai déjà eu cette discussion-là avec elle, puis pour elle, c'est la même chose, parce qu'entre autres, sur le fameux cercle de la récompense, le goût sucré dans la bouche, même si c'est pas du sucre que vous allez emmagasiner, aurait le même effet au niveau dopaminergique, puis tout ça, ce qui fait que pour elle, ça n'aide pas quand vous avez vraiment, vous êtes accro au sucre, entre guillemets, fait que ce serait pas probablement très, très santé de se dire, ben je vais changer tout ce qui est vrai sucre, là, mm-hmm. pour de
l'aspartame
ou quoi que ce soit. Là. Puis on se rappelle qu'à la base, l'aspartame a été créé pour les diabétiques et non pas pour qu'on mange plus de sucre. C'était juste pour
c'est
que
fou, hein?
les diabétiques ne pouvant pas manger de sucre de façon normale parce qu'ils ne produisent pas d'insuline, mais c'était pour ça que ça existait.
C'est vrai que ça donne le cancer, cette affaire-là?
L'aspartame?
Oui.
Pas que je sache, mais je peux vérifier.
Mais je sais pas, il me semble qu'il y avait des rumeurs il y a une couple d'années à l'effet que c'était pas super bon pour le corps puis qu'il fallait bannir ces affaires-là. Là.
Probablement que tout dans son excès n'est pas bon pour le corps, mais spécifiquement un lien direct entre l'aspartame et le cancer. Je vous reviens
c'est une belle rumeur,
à notre prochaine chronique, si c'est vrai.
Ça peut être un effet de sevrage. Une personne qui nous écrit, il y a 2 mois, j'ai arrêté l'alcool. Avant, quand je buvais, j'avais jamais mal à la tête. Puis là, j'ai toujours mal à la tête à tous les jours.
C'est-à-dire que là, elle avait arrêté de prendre de l'alcool puis elle a recommencé à prendre de l'alcool?
Non, elle est sans alcool depuis 2 mois puis j'ai toujours mal à la tête.
Ah oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait. Si veut pas, c'est quand l'alcool a beaucoup d'effets sur le corps humain. Fait que oui, ça peut être quand même un effet.
On l'entend ça avec la caféine aussi. Les gens qui arrêtent complètement la caféine, là, dans les premiers jours, il y a des maux de tête qui viennent avec ça comme s'il y avait une espèce de manque. Là.
Exact. En fait, puis la caféine est vasoconstricteur aussi, donc ça c'est explicable scientifiquement, la caféine spécifiquement. Mais n'importe quoi que vous preniez de façon régulière, que vous allez arrêter du jour au lendemain, votre corps va faire « Hum, il me semble que je n'ai pas eu ma dose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? » Puis il va quand même réagir.
Audrey, es-tu rassurée?
Non.
Non, mais ça...
Moi, j'ai retenu quelque chose.
Sérieusement, non, mais je trouve ça super constructif parce que avec les témoignages des auditeurs, je trouvais quasiment ça épeurant. Je me disais, voyons, moi, je fais pas ça de façon ultra sérieuse. C'est juste que j'ai remarqué que depuis 2 mois, j'en mange la chenoute dans une journée. Je me suis comme dit, il faudrait que tu gères éventuellement, tu sais. Mais il y a des auditeurs qui l'ont fait vraiment au sérieux parce qu'eux autres, ils voulaient éliminer complètement...
Pour des questions de santé,
oui,
souvent,
c'est hein? Exactement. L'éliminer complètement de leur alimentation, tu sais, puis manger juste des aliments de base non transformés. Puis pour eux, ça a été quelque chose de difficile dans certains cas. Fait qu'on dirait que ça me perturbait parce que je me disais, mon Dieu, c'est si difficile que ça, tu sais. Parce que c'est vrai que la première semaine, quand t'as pas ton chocolat que tu manges d'habitude dans la journée, t'es comme, ah, il me manque, tu sais.
Mais il paraît que les gelatos qu'on a pris hier, il y avait pas tant de sucre dedans.
C'est ça, exact.
Mais il y a un bout qui est très psychologique, dans le sens que, tu sais, en fait, de passer d'une alimentation X à une alimentation Y, c'est peut-être pas juste le sucre, c'est vraiment transformer complètement des habitudes que votre corps a vécues pendant des années. Fait que c'est pas juste le sucre. Mais là, après ça, justement, tu es habitué d'avoir le chocolat, puis là, ta main va aller chercher, comme les gens qui fument vont vouloir avoir un crayon, ouais, parce qu'il y a le goût qui est purement psychologique de dire, voyons, je tiens pas ma cigarette, qu'est-ce qui se passe?
C'est fascinant.
J'ai pas ma bière en fin de journée, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça, c'est vraiment le bout qui est difficile, la dépendance.
Merci, Élise, de prendre le temps, en fait, de créer du temps pour venir répondre à nos questions. C'est toujours un plaisir de te recevoir en studio. Donc, Dr. Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue. D'ailleurs, blvd.fm, là, vous allez voir, elle a plein de chroniques qu'elle a déjà faites. Nous autres, on a notre podcast.
C'est vrai qu'elle crée du temps.
Elle crée du temps, vraiment. Audrey, on n'a pas le choix de retourner dans la circulation parce que j'ai vu une couple d'incidents qui se sont rajoutés dans les dernières minutes.
Oui, mais commencer par ce qui se passe en général sur les routes capitales est à la hauteur de Robert Bourassa. C'est encore super congestionné. Robert Bourassa nord aussi. Il y a quelques problèmes entre Charest et la capitale. L'entrée du pont Pierre-Laporte, c'est super difficile que vous arriviez du Plessis ou d'Henri IV. Vous rappelez peut-être ce qui se passe là sur Robert Bourassa sud, entre le chemin 4 Bourgeois et le boulevard Hochelaga, la voie du centre et la voie du droite qui sont bloquées, et la sortie vers la rue du PEPS de l'Université Laval qui est partiellement entravée aussi parce qu'il y a un gros accident de ce côté-là. Les services d'urgence sont là, remorquage est en cours aussi, mais c'est assez difficile en ce moment ce qui se passe de ce côté-là. Il y a aussi la 20 Ouest sortie vers le chemin des îles partiellement entravée. C'est un véhicule lourd qui est en panne de ce côté-là. Remorquage en cours également, mais ça laisse des traces. Là. Fait quoi que ce soit d'autre, 88 971 102.
Merci Audrey, vous écoutez Gravel dans le retour sur les ondes de Boulevard 102.1. Gravel.